Il est 22h, belle soirée à vous sur Europe 1. Tout de suite le journal, Isabelle Millet.
Bonsoir à tous, voici les titres de votre journal et ce thermomètre qui monte et on n'a encore rien vu semble-t-il. Ça va encore grimper jusqu'à la fin de la semaine au moins. Du coup le ministre de l'Éducation décide de reporter le brevet à la semaine prochaine, c'est une première. Tout le gouvernement est mobilisé pour éviter l'hécatombe de la canicule de 2003, en particulier dans les EHPAD. Des mesures annoncées également aujourd'hui contre la pollution. On verra ça dans le détail et ne manquez pas bien sûr les prévisions complètes d'Elena Morna à la fin de ce journal. Que s'est-il passé à Nantes le soir de la fête de la musique? Les forces de l'ordre ont chargé, 14 personnes sont tombées dans la Loire. L'une d'elles est portée disparue. L'affaire Vincent Lambert, le sort du tétraplégique désormais suspendu à une décision de la Cour de cassation. On parlera aussi de Michael Jackson, 10 ans qu'il est mort, 10 ans que son médecin est pointé du doigt. Et puis les Bleus connaissent leurs adversaires pour les quarts de finale du Mondial. Ce sera vendredi et ce sera à vivre, bien sûr, en direct sur Europe 1. Sans surprise, avec les Américaines, ou plutôt contre les Américaines. La surprise, c'est que les Espagnols, eh bien, leur ont donné du fil à retordre. Comme chaque soir, 22h20, vous avez rendez-vous avec l'interview écho d'Emmanuel Duteil. Emmanuel reçoit ce soir le directeur des opérations de Mondial Assistance, Pascal Fanton. Et on parlera aussi avec lui de cette canicule qui fait souffrir les humains, mais aussi les voitures.
Europe 1.
Et la réponse du gouvernement donc à l'épisode de canicule, alors que 53 départements, je vous le disais, sont placés en vigilance orange par Météo France, les ministres sont sur tous les fronts. Pollution, hôpitaux, écoles, maisons de retraite, accueil des SDF, activités sportives, le gouvernement veut rassurer et éviter bien sûr l'hécatombe de la canicule de 2003 et ses 15 000 morts. Avec une première conséquence concrète, donc le brevet des collèges prévu théoriquement ce jeudi et vendredi est reporté en début de semaine prochaine en métropole, c'est inédit. Les épreuves auront lieu lundi et mardi. Le ministre de l'Éducation ne veut pas laisser des élèves plancher plusieurs heures dans des salles surchauffées.
En raison de la canicule, nous sommes amenés évidemment à prendre des mesures d'exception pour tenir compte tout simplement de la santé, de la sécurité et du bien-être des élèves et des personnels. Et s'agissant du brevet, j'ai dû prendre la décision donc d'un report. Il devait avoir lieu en France métropolitaine jeudi et vendredi prochain. J'ai donc décidé pour la France métropolitaine de le reporter à lundi et mardi prochain. Et il est vrai que le bâti scolaire n'est pas homogène et qu'il y a des bâtiments dans lesquels les élèves pourront travailler à peu près normalement et d'autres pour lesquels ce sera plus difficile. Et donc pour des questions d'égalité et puis pour des questions tout simplement de bon déroulement des épreuves, il est paru raisonnable de reporter à lundi et mardi prochain.
Le ministre de l'Éducation Jean-Michel Blanquer avec Virginie Salmen. Sage décision, dit Hubert Salahin, le porte-parole de la PEP, la Fédération des parents d'élèves.
Le report du brevet, c'est une bonne chose dans la mesure où les épreuves ne pouvaient pas se tenir dans les conditions normales par 40 degrés, hein, avec des questions de sécurité au niveau des élèves. Voilà. Donc le brevet, en plus, n'est pas un examen absolument essentiel. Donc le repousser de quelques jours nous semble très raisonnable. Ça va poser des contraintes au niveau de la communauté éducative, mais l'intérêt des enfants s'impose dans cette situation. Pour les familles qui seront dans une situation complexe, qui doivent partir dimanche ou ce week-end, il y a de toute façon une épreuve de report du brevet qui est prévue mi-septembre. Donc l'Éducation nationale sait le faire, on a confiance.
Hubert Salahin de la PEP, la Fédération des parents d'élèves, joint pour Europe 1 par Ève Roger. Le brevet reporté donc en métropole. Concernant les conditions d'accueil avec cette canicule dans les écoles maternelles, dans les primaires, les collèges et les lycées où il y a encore cours, des décisions d'éventuelles fermetures seront prises au cas par cas en fonction essentiellement des locaux et de leur isolation. Et les parents seront prévenus dans les prochaines 48 heures. Le Conseil des ministres, avancé à demain, fera le point sur les mesures prises face à cette semaine exceptionnelle. Côté météo, depuis Marseille aujourd'hui, Emmanuel Macron a confirmé que tout le gouvernement était mobilisé, que cette canicule était prévue et anticipée, avec bien sûr des priorités. On pense forcément à nos aînés qui ont tendance à se déshydrater beaucoup plus vite. Les établissements qui accueillent des personnes âgées se sont préparés, comme cette maison de soins à Paris. Myriam est responsable logistique et depuis ce matin, elle veille à ce que les résidents n'attrapent pas un coup de chaud.
C'est suffocant pour eux, c'est difficile, ils vont beaucoup plus lentement, ils peuvent avoir des étourdissements, des choses comme ça. Donc effectivement, oui, c'est très compliqué à vivre pour eux. Chaque membre de l'équipe va avoir des tranches horaires dans lesquelles ils vont penser à proposer des verres d'eau, donc 3 petits verres d'eau par heure, hein, avec un relais pour pas qu'il y ait d'oubli ou de choses comme ça. On ferme les volets, on n'allume pas la lumière, de telle sorte que la pièce reste fraîche le plus longtemps possible. Donc ça passe par des petits gestes simples comme ça.
La responsable logistique d'un EHPAD du 16e arrondissement de Paris, elle était au micro Europe 1 de Chanel Petit. Et puis avec ces fortes chaleurs, il faut également se préparer à l'arrivée de la pollution. Deux départements sont déjà en alerte orange, le Vaucluse et les Bouches-du-Rhône. Dans la capitale, le ministre de la Transition énergétique annonce la mise en place d'un nouveau dispositif totalement automatisé et donc simplifié lors d'Autriche.
Oui, quand on dépassera finalement un certain seuil de pollution, sans avoir à en référer à la préfecture, automatiquement il y aura ce qu'on appelle la circulation différenciée qui sera déclenchée. Alors ça concerne la pollution aux particules fines et seuls les véhicules ayant une vignette numérotée de 0 à 2 pourront rouler, alors que jusqu'ici les voitures avec une vignette critère 3 pouvaient également circuler. C'est effectivement ce qu'a annoncé le ministre de l'écologie François de Rugy. Alors pour l'instant, ça concerne Paris, mais à l'avenir, ça pourrait être étendu aussi à d'autres villes, hein, si le système fonctionne bien. Alors, quand on dit que le seuil est atteint, c'est qu'on dépasse une concentration de particules fines de 80 microgrammes par mètre cube d'air sur 24 heures et au moins 50 microgrammes lorsque ça dure au moins 2 jours. Alors, ça arrive en général plusieurs fois dans l'année. C'est ce qu'explique Charlotte Songeur, ingénieure à Air Paris, l'organisme de surveillance de la qualité de l'air en Île-de-France.
Suivant les polluants, on va avoir des seuils différents. Le 80 microgrammes, c'est pour les particules et c'est généralement des épisodes qu'on va avoir à l'hiver ou au printemps. Ce qu'il faut comprendre aussi avec ces polluants, c'est que quand on est en persistance, c'est-à-dire 2 jours d'affilée de pollution, on passe en seuil d'alerte et donc les mesures d'urgence peuvent s'appliquer.
Alors, un mot enfin concernant cette semaine de canicule. Ce qui menace, comme souvent l'été, ce ne sont pas des pics de particules fines, mais la pollution à l'ozone. C'est cette pollution qui est surveillée par les experts. Aujourd'hui, les seuils d'alerte à l'ozone ne sont pas encore dépassés, mais ça pourrait être le cas en milieu de semaine. Pour fabriquer de l'ozone, il faut notamment du soleil et de la chaleur. Et aujourd'hui, les nuages, notamment en région parisienne, ont limité la fabrication d'ozone.
Les précisions de Laure d'Autriche pour Europe 1.
Isabelle Millet sur Europe 1.
Il est 22h07 et on reparle ce soir sur Europe 1 de l'affaire Vincent Lambert. Nouvel épisode, a priori, ce devrait être le dernier théoriquement. En tout cas, la Cour de cassation, la plus haute juridiction française, doit se prononcer vendredi après avoir examiné la décision de la Cour d'appel de Paris. Cette dernière, on s'en souvient, avait ordonné à la surprise générale la reprise des traitements qui maintiennent en vie le tétraplégique. Incompréhensible pour maître Patrick Spinozzi, il est l'avocat de Rachel, l'épouse de Vincent Lambert.
C'est un véritable coup de force juridique qu'a commis la Cour d'appel. Elle n'avait aucun droit de statuer, elle se l'est arrogée. Les juges ont ici fait montre plus de passion que de raison et je pense que la Cour de cassation viendra dire clairement où se situe le droit et remettre la légitimité des décisions qui ont déjà été rendu depuis 4 ans dans ce dossier. La Cour de cassation mettra définitivement fin à ce litige et la décision d'arrêt de soins de l'équipe médicale pourra alors être exécutée comme elle aurait déjà dû l'être sans cette décision anormale de la part de la Cour d'appel de Paris qui n'avait absolument aucun droit d'interrompre les soins.
Maître Spinozzi, l'avocat de l'épouse de Vincent Lambert. Évidemment, les parents, eux, ont mis beaucoup d'espoir dans cette énième décision de justice. Vous savez qu'ils veulent à tout prix maintenir leur fils en vie. Et leur avocat, maître Jérôme Triomphe, reste confiant.
Écoutez, évidemment que nous sommes confiants. Je vous rappelle que quand nous sommes allés plaider à la Cour d'appel de Paris le 20 mai, Vincent avait été sédaté et le processus de mort avait été engagé. Et le soir même, il était sauvé. Donc évidemment que nous sommes confiants. Le juge judiciaire a su se montrer être le dernier rempart contre l'arbitraire, ici étatique, ici médical, et évidemment que nous attendons avec confiance. La question qui se pose, c'est la question de savoir pour quel motif y a-t-il une urgence à provoquer la mort de Vincent Lambert. Ce pays dans lequel un État, tout un appareil d'État, avec toute la puissance qui est la sienne, s'acharne sur un homme à vouloir le faire mourir.
L'un des avocats des parents de Vincent Lambert, maître Jérôme Triomphe. Et dans un instant, ce sera à la suite de votre journal sur Europe 1. Que s'est-il passé à Nantes le soir de la fête de la musique? 14 personnes sont tombées à l'eau. Un jeune homme est porté disparu. À tout de suite.
Le journal de la nuit avec Isabelle Millet sur Europe 1.
Il est 22h10, merci d'écouter Europe 1, c'est la suite de votre journal. Et une enquête de l'IGPN, la police des polices, est ouverte à Nantes après la disparition d'un jeune homme, vraisemblablement lors de la fête de la musique vendredi. Il participait à une soirée électro sur les quais de la Loire, soirée qui a dégénéré aux alentours de 4h30. Les forces de l'ordre ont chargé, fait usage de gaz lacrymogène. 14 personnes sont tombées dans la Loire et l'une d'elles est donc toujours portée disparue. Écoutez le reportage sur place de François Coulon, le correspondant d'Europe 1.
Beaucoup d'amis de Steve l'ont croisé au cours de cette fête de la musique. Le jeune homme était manifestement très fatigué vers 4 heures du matin. Il se serait endormi non loin de la Loire, peu avant l'intervention des forces de l'ordre. Tout est parti d'un dépassement horaire. La musique devait s'arrêter impérativement à 4 heures du matin. Mais une demi-heure plus tard, un DJ continuait à faire tourner ses platines de musique électro. L'intervention des policiers aurait été accueillie par des projectiles, disent les autorités, d'où la riposte à coups de lacrymogènes et de grenades de désencerclement, ce qui a créé un gros mouvement de panique. Dans la cohue, 14 jeunes sont tombés dans la Loire. Il n'y avait pas de garde-corps à cet endroit. Ces jeunes ont été secourus par les pompiers et la SNSM présents sur le fleuve. Mais depuis cette nuit très agitée de vendredi, aucune nouvelle de Steve, un éducateur de 24 ans, que ses amis décrivent comme un garçon non belliqueux. Sa maman a officiellement signalé sa disparition hier soir. Deux enquêtes ont été ouvertes, l'une judiciaire, l'autre administrative à la demande du ministre de l'Intérieur. Cette enquête va porter sur les conditions de l'intervention des forces de l'ordre. C'est l'IGPN, la police des polices, qui s'en chargera. Nantes, François Coulon, Europe 1.
Le constat de l'INSEE à propos du chômage, l'écart est toujours marqué entre la métropole et l'outre-mer, où le nombre de demandeurs d'emploi est au minimum deux fois plus important et même quasiment multiplié par quatre à Mayotte. Le géant français des services informatiques Capgemini annonce avoir conclu un accord pour racheter le groupe de conseil en technologie Altran, ce qui va donner naissance à un colosse de 17 milliards d'euros de chiffre d'affaires annuel. Les nouvelles sanctions américaines contre l'Iran, Washington promet de geler des milliards de dollars d'actifs iraniens supplémentaires. Plusieurs personnalités seront aussi visées. Le chef de la diplomatie, le guide suprême, des sanctions qui pourraient rester en place des années. C'est ce que dit en tout cas Donald Trump ce soir. L'Iran demande aux États-Unis d'arrêter leur guerre économique. Et en foot, les Bleus affronteront donc les États-Unis en quart de finale du Mondial vendredi au Parc des Princes. Les Américaines ont en effet battu les Espagnols ce soir à Reims, où l'on vous retrouve Cyril de la Morinerie. Cyril, une victoire dans la douleur pour les favorites de cette compétition.
Oui, victoire américaine, mais victoire poussive. Pour la première fois, l'équipe des États-Unis a encaissé un but dans cette compétition. Mais surtout, les redoutables Américaines, championnes du monde en titre, ont connu des difficultés face aux Espagnols. Le premier but a été marqué sur pénalty à la cinquième minute par l'équipe américaine. C'est Megan Rapinoe qui a marqué. Égalisation pratiquement dans la foulée à la neuvième minute par l'Espagnol Hermosa. Des Espagnols qui ont réussi à tenir le ballon. Finalement, c'est sur un nouveau pénalty et que l'équipe américaine s'en est sortie. La VAR a confirmé ce pénalty des États-Unis et Rapinoe s'est chargé de marquer ce deuxième but américain. C'est donc une équipe américaine moins fringante, si je puis dire, qui va rencontrer l'équipe de France. C'est peut-être une bonne nouvelle d'ailleurs pour les Bleus. Ce sera vendredi prochain à 21h au Parc des Princes.
Et sur Europe 1 en direct, évidemment. Merci beaucoup Cyril de la Morinerie du service des sports d'Europe 1 à Reims, où se jouait donc cette rencontre. Les Bleus, elles sont à Clairefontaine, où elles ont mis en place un entraînement sur mesure afin de ne pas s'épuiser trop à cause de la canicule. Et puis notez qu'en ce moment, la Suède domine 1-0 face au Canada. L'attribution des Jeux Olympiques d'hiver 2026, c'est la candidature italienne de Milan Cortina qui l'emporte aux dépens du dossier suédois. Et puis demain ça fera 10 ans tout juste que disparaissait Michael Jackson. Et on va retrouver Xavier Yvon, le correspondant d'Europe 1 aux États-Unis. Alors on se souvient que le médecin de Michael Jackson, le docteur Murray, a été rapidement sur la sellette pour avoir administré un produit anesthésiant qui aurait pu tuer la star. Il a été jugé d'ailleurs pour ça. Mais ce soir, Xavier, de nouveaux témoignages accablent encore le médecin.
Oui, c'est des nouveaux témoignages qui sont encore plus accablants pour le docteur Murray. En fait, il s'agit des policiers qui sont entrés les premiers dans la chambre de Michael Jackson. Trois inspecteurs du LAPD, la police de Los Angeles, ils ont été chargés de l'enquête. Ils parlent pour la première fois dans un documentaire britannique intitulé « Killing Michael Jackson », « Tuer Michael Jackson ». Écoutez cet extrait.
Ce n'était pas juste une overdose. On ne l'aidait pas à dormir, on le gardait dans cet état. C'est un homme qui n'aurait pas dû mourir.
Il n'aurait pas dû mourir. Voilà la conviction des trois policiers. Il avait assez de propofol en lui pour tuer un rhinocéros, dit-il. Alors le propofol, c'est ce fameux anesthésiant dont on a beaucoup parlé à l'époque. Il raconte comment le docteur Murray a caché tout son matériel médical dans la maison de la star avant l'arrivée des secours. Et comment ils l'ont découvert ? Nous avons trouvé des tas de médicaments, des aiguilles, des bouteilles vides, disent-ils. Tout ça aurait dû être dans la chambre à notre arrivée. Ils ont conclu que le docteur Murray a arrêté le massage cardiaque sur Michael Jackson pour prendre le temps de tout dissimuler. D'ailleurs, l'appel au service d'urgence n'intervient qu'une demi-heure après la découverte de la star inanimée. Et selon ces trois inspecteurs, le docteur Murray aurait dû être condamné pour meurtre. Au lieu de ça, il a été reconnu coupable d'homicide involontaire en 2011, condamné à 4 ans de prison, dont il est sorti au bout de 2 ans.
Xavier Yvon, correspondant d'Europe 1 aux États-Unis. Et on va jeter un œil sur la météo avec vous, Elena Mornam, et les météos caniculaires, on l'a bien compris. Et pour demain, ce sera un peu plus beau à l'ouest, un peu plus chaud partout, avec désormais 53 départements en alerte orange, Elena.
Et ce n'est, Isabelle, que la deuxième envolée du mercure. La troisième arrive mercredi et s'étendra cette fois aux régions épargnées, celles du nord-ouest ou encore du sud-ouest. C'est une grande partie est jusqu'en Île-de-France, région centre, Limousin, Poitou-Charentes et Tarn qui sont en vigilance canicule demain. D'autres vigilances à venir sur l'ouest pour le milieu de semaine donc. Alors côté ciel, c'est vrai qu'on a eu une bonne chape de nuages aujourd'hui sur la moitié ouest. Elle va se réduire en peau de chagrin demain et se cantonnera l'après-midi aux régions allant de la Charente-Maritime au Nord-Pas-de-Calais. Plus nuageux sur la Bretagne et le Cotentin avec encore un risque d'orage. Ailleurs, c'est bleu et déjà trop chaud avec 30 à 38 degrés entre Angers et Avignon. Il y a quelques valeurs trompeuses comme à Sainte-Maxime par exemple avec 30 degrés alors que 30 km plus loin, dans les terres, on ira jusqu'à 37 à Draguignan comme à Valence et Lyon d'ailleurs. 36 à Strasbourg et Auxerre, 34 à Toulouse et Marseille, 32 à Lille, Paris et Ajaccio, 31 pour Amiens et Bordeaux. On devrait sortir de cette canicule précoce et intense à partir de dimanche.
La météo signée, Elena Mornam.
Europe 1.
Et dans un instant, vous saurez tout sur la bourse avec Didier Hamot de Boursier.com, juste avant l'invité Claude Emmanuel Dutheil, qui reçoit ce soir le directeur des opérations de Mondial Assistance, Pascal Fanton. A tout de suite sur Europe 1.
22h, 22h30, le journal de la nuit avec Isabelle Millet sur Europe 1.
Et à 22h18, comme tous les soirs, sur Europe 1, on s'intéresse à la bourse. Avec vous, Didier Hamot, rédacteur en chef de Boursier.com. Bonsoir Didier.
Bonsoir Isabelle.
Et Wall Street qui commence cette semaine prudemment, à l'écoute de la situation internationale qui est toujours tendue.
Oui, ça hésite pas mal à Wall Street. Pas vraiment de tendance. Le Dow Jones plus 0,03%. Une toute petite hausse, 26 727 points. Le Nasdaq revient sur les 8000 points, 8005 points exactement, moins 0,32%. Quelques prises de bénéfices sur fond de poursuite des tensions entre les États-Unis et l'Iran, et dans l'attente aussi du G20 d'Osaka, ce sera pour la fin de semaine, qui verra la rencontre entre Donald Trump et le président chinois Xi pour tenter de débloquer la situation commerciale internationale. En attendant, le baril de pétrole stagne, $57,50 le WTI, après un gain de 10% quand même la semaine passée sur les tensions dans le golfe Persique. L'or reste au plus haut depuis quasiment 6 ans, à près de $1420 l'once. Du côté des valeurs de technologie, il ne se passe pas grand-chose. Donc Apple est stable sous les $200, Microsoft plus 0,6%, Facebook plus 0,7%. Amazon grappille 0,1%. Sur les devises, l'euro est à peu près stable, 1,1385 face au dollar.
Et la Bourse de Paris a, elle aussi, limité les risques.
Petite baisse, moins 0,12%, pas grand-chose. Oui, c'est pas passé grand-chose aujourd'hui. 5522 points sur le CAC 40. Après, il est vrai aussi une envolée de 4% la semaine passée. Le CAC marque une pause sur quelques prises de profit. En revanche, les opérations financières se poursuivent avec le rachat amical, vous en parliez tout à l'heure, du groupe Altran par le groupe Capgemini pour 3,6 milliards d'euros à 14 euros par action. C'est une très grosse opération, un nouveau rapprochement spectaculaire dans le secteur des services informatiques et numériques. Le nouveau groupe va peser 17 milliards d'euros de chiffre d'affaires et emploiera 250 000 personnes dans le monde. Donc Altran et Capgemini qui se marient. Pour le reste, pas grand-chose à signaler et pas mal de prises de bénéfices parsemées, on va dire.
Alors parlez-nous quand même d'Alstom qui s'est distingué à la hausse, Didier.
Oui, c'était la vedette du jour, Alstom. Plus 2,3%, 42,37 € après l'annonce de son nouveau plan d'action qui s'appelle Alstom in Motion, Alstom en mouvement en français, qui passera par une marge d'exploitation de 9% en 2022-2023. La croissance du marché est prévue de l'ordre de 3% par an entre 2018 et 2023. Ça donne Alstom en hausse ce soir de 2,3% à la clôture. Sur les autres places financières, ça baisse partout. Le DAX à Francfort, moins 0,5%. Bruxelles, moins 0,2%. Madrid, moins 0,4%. Milan, moins 0,5%. Et des prises de bénéfices aussi. Donc sur le CAC 40, moins 0,12%. 5 522 points.
Merci beaucoup pour ce tour d'horizon toujours très complet. Didier Hamot de Boursier.com.
L'invité éco avec laposte.fr/pro, la solution des pros pour faire garder son courrier pendant les vacances cet été.
Emmanuel Dutheil, vous recevez ce soir le directeur des opérations de Mondial Assistance.
Bonsoir Pascal Fanton.
Bonsoir.
Merci d'avoir accepté l'invitation d'Europe 1. Vous êtes le directeur des opérations de Mondial Assistance. Si on a eu envie de vous inviter ce soir, c'est que vous faites partie de ces activités qui vont connaître un gros boom en raison de la canicule. Alors vous n'êtes pas obligatoirement ceux à qui on pense pourtant en la matière, mais notamment parce qu'il va y avoir de plus en plus, là pendant quelques jours, de problèmes pour les automobilistes, il va y avoir des pannes en plus, c'est ça l'idée ?
Alors l'idée c'est qu'un Français sur quatre est couvert par Mondial Assistance et lorsqu'on utilise sa voiture et qu'il fait très chaud, et il va faire très chaud, eh bien les véhicules tombent plus souvent en panne.
Mais pourquoi ?
En fait, les véhicules au-dessus de 35 degrés commencent à avoir des problèmes d'électronique, de batterie. Il faut avoir un véhicule le plus entretenu possible dans ces circonstances-là parce qu'il chauffe et alors il tombe en panne.
Quand vous dites on va avoir de plus en plus d'appels, on peut avoir une idée de la proportion que ça pourrait représenter ?
Alors, les prévisionnistes de Mondial Assistance ont planché en fin de semaine dernière et avec les données météo actuellement disponibles, on sait que notre activité va augmenter de 20%.
Ah oui, donc c'est important.
C'est très important, c'est très significatif parce que tout le territoire est touché et que ce sont des températures très élevées.
Du coup, c'est une opération un peu spéciale pour vous ? C'est rare chez Mondial Assistance de connaître un tel événement ?
Alors, chez Mondial Assistance, on est habitué à faire face à beaucoup d'événements, des inondations ou même, comme on l'a vu la semaine dernière dans l'Isère, à des coups de vent très importants. Mais là, en l'occurrence, cette canicule est très très forte. Et pour vous donner un chiffre, on attend plus de 25 000 appels une journée où en général, on en traite 20 000.
Ah oui, donc ça va être quand même assez notable. Du coup, je crois que vous recrutez 25 intérimaires pour faire face là pendant quelques jours à cette demande ?
Alors, chez Mondial Assistance, on avait prévu la saison estivale, puisque les Français partent bientôt en vacances. Mais cet élément supplémentaire, effectivement, nous amène à renforcer nos équipes. Nous aurons plus de 1000 personnes à partir de demain en charge de l'activité d'assistance rapatriement automobile au Mans et à Paris, puisque nous avons recruté en supplément 100 personnes qui vont venir nous prêter main forte, et puis 2x25 personnes aujourd'hui et demain qui viennent en sus venir prêter main forte. On attend un dépannage toutes les 10 secondes.
Est-ce que vous n'avez pas peur que tout ce qu'on en ait, et nous peut-être les premiers médias, on en fasse un peu trop, malgré tout, autour de cette canicule ? Vous disiez, avec nos équipes de prévisionnistes et tout, c'est-à-dire que tout le monde là se dit, on est sur quelque chose quand même rarissime.
L'ampleur est rarissime, la canicule malheureusement devient un élément plus fréquent. Ça se lit dans deux sens. Je pense qu'on a des messages de prévention à porter, et là, vous comme moi, nous sommes là aussi pour mettre en garde contre un certain nombre de comportements. Après, il y a des éléments mécaniques. Une voiture tombera en panne parce qu'il fera très chaud. On peut éviter de se déplacer. Là, pour le coup, ça permettrait à chacun d'être peut-être dans
Mais
une situation plus confortable.
Mais je crois avoir lu que de façon paradoxale, quand il fait chaud, on utilise plus sa voiture parce qu'on ne veut pas prendre les transports en commun, etc.
Oui.
C'est ça, il y a un lien entre chaleur et...
Ce qui explique les 20% dont je vous parle de croissance pour Mondial Assistance, c'est que les Français vont plus se déplacer, vont éviter les transports. Si le week-end prochain est encore chaud, et ça sera encore
et surtout qu'il va être
cas,
exceptionnellement beau, semble-t-il.
C'est ça, donc plus de week-ends avec les copains, on en profite pour quitter les grandes villes où il a fait très chaud. Et nous, Français, encore une fois, un Français sur quatre est couvert par Mondial Assistance, on a des éléments très précis sur ces grands déplacements, on va noter plus de déplacements, et lors de ces déplacements, plus de pannes à cause de cette chaleur.
Et du coup, on est sur quelque chose de similaire aux grandes crises de l'hiver, quand on a une grosse tempête ou de neige ou ce genre de choses, où là, c'est vraiment quelque chose d'un peu rarissime.
Alors, on retrouve effectivement, sur les problèmes de voiture, autant le grand froid que des températures caniculaires comme celle-ci. Et on l'a connu ces dernières années avec déjà des éléments de chaleur ces 3-4 dernières années. Là, ce qui attire mon attention, c'est que Météo France annonce plus de 80 départements touchés et des températures 37, 38, 40 degrés. Donc là, c'est assez fort, c'est même très fort. Dans nos modèles, ce sont des éléments qu'on n'avait pas connus depuis 2003 et qui vont même, semble-t-il, aller au-delà.
Ah oui, donc
on s'attend à des pics qui pourraient dépasser même ces 20%, 30, pourquoi pas 40. Nous revoyons chaque soir avec les équipes, comme nous l'avons fait durant le week-end en préparation de ce journée de lundi, les volumes d'activité attendus, les ressources disponibles, le renfort des réseaux de dépanneurs, et aussi, on a pré-loué des véhicules de location au cas où, on a pris un certain nombre de mesures préventives.
Oui, on est vraiment dans une sorte de situation de pré-crise, là, aujourd'hui, chez vous. On se prépare au pire, en tout cas.
Notre métier, c'est de tout prévoir. Là, il nous faut prévoir au-delà même de ce qu'on aurait dû prévoir avant de partir en vacances, puisque les vacances sont dans les prochains jours. Mais écoutez, je pense que les départs en vacances, en termes en tout cas de trafic routier et de dépannage auto, auront lieu plus tôt que prévu cette année.
J'imagine que vous n'êtes pas les seuls à faire ça. Ça a été facile, par exemple, de trouver les voitures de location disponibles, parce qu'on est tous moutonniers. Hein. Il paraît que les bouteilles d'eau, il n'y en a plus dans certains supermarchés, ce genre de choses. On va tous au même moment, au même endroit.
Bon, un petit clin d'œil. D'abord, on s'est pris très tôt. Nos prévisionnistes nous ont donné des informations dès la fin de la semaine dernière. D'autre part, on est leader mondial de l'assistance et du rapatriement. Donc forcément, quand on s'adresse à nos partenaires de longue date, puisqu'on inscrit tout cela dans la durée, c'est aussi leur fournir des éléments qui leur permettent de mieux prévoir pour les locations de voitures, pour les dépannages et de mieux nous servir pour mieux servir les automobilistes.
Quand vous dites on est une équipe de prévisionnistes, oui. C'est-à-dire quoi ? C'est quoi leur travail chez Mondial Assistance ?
Alors on a concrètement 14 personnes dont le travail consiste à regarder sur notre historique de plus de 10 ans comment les Français se sont déplacés. Alors ça va des éléments très simples et classiques comme les vacances scolaires, mais aussi à vérifier si il y a eu des éléments particuliers. L'hiver dernier, les gilets jaunes ont fait modifier les déplacements du samedi vers le dimanche, pour être quelque chose de très concret, mais aussi des éléments de température. On est en lien avec Météo France et on sait que les prévisions sont très fiables à 5 jours et qu'elles impactent les déplacements des Français dans leurs décisions de chaque jour.
Bon, et ben j'espère que malgré tout, on n'aura pas besoin de vous appeler. Vous avez entendu, il faut faire attention à sa voiture en cette période de forte chaleur. Un grand merci Pascal Fanton, le directeur des opérations de Mondial Assistance, était notre invité ce soir sur Europe 1. On se retrouve demain, 22h20.
Bonsoir.
À demain. Merci à vous Emmanuel Duteil.
C'était l'invité éco avec laposte.fr/pro, la solution des pros pour faire garder son courrier pendant les vacances cet été. Retrouvez toutes les solutions qui vous font gagner du temps sur laposte.fr/pro.
Et dans un instant, on jette un œil sur les unes de vos quotidiens. Quels sont les sujets que nos confrères de la presse écrite ont choisi de mettre en avant ? À tout de suite sur Europe 1. Et voici donc ce que vous découvrirez demain à la une de vos quotidiens. Le brevet, première victime de la canicule, écrit Benoît Georges dans Les Échos. La France à chaud, c'était prévu et ce n'est qu'un début. Jean-Michel Blanquer a décidé de reporter à la semaine prochaine les épreuves du brevet des collèges, initialement prévues jeudi et vendredi. À peine 72 heures avant l'examen et alors que de nombreux élèves de 3e et leurs parents pensaient rejoindre la route des vacances dès ce week-end, la mesure, dit-il, ne manquera pas de créer une polémique. La première de cette canicule 2019, s'interroge le journaliste. Dans le journal Alsace, Laurent Baudin revient lui aussi sur ce report du brevet. Une décision, écrit-il, abrupte et radicale. Elle est d'autant plus inattendue que les élèves français n'ont pas l'habitude de travailler en juillet. Et oui, même si c'est anecdotique, à l'échelle d'une vie, c'est le programme des vacances de nombre de familles, de 800 000 candidats inscrits à cette épreuve, ainsi que des professeurs chargés de la surveillance, qui s'en trouvera perturbé. Mais le brevet est en lui-même un diplôme dont l'intérêt est somme toute relatif. De nombreux collégiens risquent au final de sécher l'épreuve ou de tenter de participer à cette épreuve de rattrapage, vous savez, qui est prévue en septembre. La France, en tout cas, peut se préparer à une deuxième polémique. Libération s'intéresse quant à lui à La Poste avec ce titre « La Poste boite au mal-être ». Burn-out, dépression, les postiers dénoncent une dégradation de leurs conditions de travail et en particulier la rationalisation extrême de leurs tâches à l'aide d'algorithmes. Les syndicats, eux, craignent un nouveau France Télécom. Airbus, comment embaucher 50 000 personnes, s'interrogent les Échos. L'avionneur européen doit renouveler plus du tiers de ses effectifs d'ici à 2027. Mais l'industrie fait face à des difficultés de recrutement liées notamment à la transformation numérique. Et puis Turquie, Hong Kong, Tchéquie, un frisson mondial de démocratie. C'est le titre du journal L'Opinion qui rappelle notamment que l'opposition a infligé un cinglant camouflé au président turc en remportant une nouvelle fois, mais avec une marge beaucoup plus grande, la mairie d'Istanbul, détruisant son aura d'invincibilité et portant la voix des électeurs mécontents de sa politique. Voilà donc pour ce tour d'horizon rapide des unes de vos journaux que vous retrouverez demain matin dans vos kiosques. Et je vous souhaite une excellente soirée, un très bon début de semaine à l'écoute d'Europe 1 en compagnie de Sophie Peters pour la Libre Antenne. Bonsoir Sophie.
Bonsoir Isabelle.
On va avoir très chaud cette semaine. Hein
bon, on est bien au frais dans les studios
d'Europe 1. Oui, c'est bien.
On reste là.
À tout à l'heure.